Allez, c'était Pearl Jam avec Black, sorti sur le live MTV. On va se quitter. Moi, je vous laisse la semaine prochaine avec Lionel et son Alchimix. Je reviendrai peut-être dans deux semaines, mais c'est les vacances et je sais que je suis pas là, mais peut-être que je ferai quand même quelque chose. Je ne sais pas encore. Je verrai. Donc, peut-être pas dans deux semaines. D'ici là, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? On va se quitter, c'est tout. On va se quitter avec un petit Queen of the Stone Age. Queen of the Stone Age, ils ont sorti le 13 juin dernier un live, Alive in the Catacombs. Donc, ils ont enregistré un live dans les catacombes de Paris. C'est hyper calme, hein. C'est pas du Queen of the Stone Age très vénère. Ils ont choisi leur chanson plutôt très calme aussi pour le faire. Mais ça sonne plutôt bien. Je l'avais pas écouté, je l'ai écouté ce matin. Franchement, ça c'est pas mal. C'est très doux, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, je me suis dit, allez, on va choisir une petite chanson. Et j'ai choisi la chanson I Never Came, qui était sortie en 2005 sur Lullabies to Paralyze. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous dis bonne soirée, bonne semaine et. Peut-être dans deux semaines, peut-être dans quatre semaines. On verra bien. Allez, c'est parti avec Queen of the Stone Age. Salut.
Sur deux, 20h, 21h, pour deux pistes et sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tour de Piste qui accueille ce soir un des timbres les plus chics de la chanson française en la personne de Stéphanie Hackett. Autrice, compositrice et interprète, elle nous a livré sous son nom à l'automne 2025 un remarquable mini-album baptisé Mes Sœurs. Pour cette œuvre intemporelle où se succèdent cinq chansons d'une beauté à la hauteur des classiques, mon invité s'est attaché les services du compositeur et chef d'orchestre Fred Palem. Elle est à mes côtés jusqu'à 21h pour retracer son parcours d'artiste, partager un petit bout de sa culture musicale et nous présenter sa dernière œuvre en date. Et puis bien sûr, on finira sur son projet collectif avec le groupe Les Clopes qui se produira sur la scène du Cube à Évreux demain soir, soit le 12 février si vous écoutez cette émission en direct. Bonsoir Stéphanie.
Salut.
En ce début d'émission, je te propose de rembobiner un peu le fil de ton histoire. Tu as été bercée par la grosse variété, je mets ça très entre guillemets. Tu pourrais nous citer les artistes avec lesquels tu as grandi dès l'enfance?
Alors c'est vrai que la radio qu'on écoute toujours en voiture, parce que je pense que tout le monde a cette pratique de l'écoute de la musique en voiture, hein. C'est d'ailleurs une pratique que j'ai toujours, c'est un des meilleurs moments, écouter la radio dans la voiture, hein, ou des disques. C'était Radio Nostalgie tout le temps, Radio Nostalgie avec tous ses golds. Donc moi je suis assez fan des tubes qui mettent tout le monde d'accord. Je trouve ça assez magique que toutes les classes sociales, tous les gens d'où qu'ils viennent, tous les âges s'accordent à aimer tous ensemble une chanson. Ça me touche beaucoup. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon délire avec ce que j'appelle la variété. Mais si j'ai réfléchi bien, en fait, ma mère quand même, qui était la mélomane de la famille, avait une sacrée collection de cassettes. Et en fait, l'artiste qu'on entendait le plus dans la voiture, finalement, c'était Étienne Dao. Donc, on peut pas dire que c'est non plus de la grosse variété, puisque je pense que c'était peut-être un petit peu classieux et hors norme à l'époque. Il y avait un petit truc révolutionnaire dans Dao. Bon, après, beaucoup de Francis Cabrel, ce qui est bien quand on commence la guitare. Et puis même, à force de creuser dans sa bibliothèque, dans sa discothèque à ma maman, là, je me rends compte qu'en fait, elle adorait des trucs des années 70 que moi, je commence à aimer maintenant que j'ai 40 ans, bientôt. Et c'est-à-dire Simon & Garfunkel, par exemple, tu vois. John Baez, etc. Donc, je découvre des choses rétrospectivement, j'arrive à mieux comprendre un peu d'où ça vient, quoi.
La bossa nova est une des musiques qui t'inspire. Et qu'est-ce qui te séduit dans ce genre musical ?
Dans la bossa nova, ce que j'aime particulièrement, c'est le calme que ça génère. C'est-à-dire, t'as juste un instrument acoustique. Au départ, la guitare, une voix qui fait pas de, une voix qui te chuchote, une voix qui te parle, qui est pas une grosse voix. Et on est dans une atmosphère calme, on sent bien qu'on est dans une chambre, dans un appartement et qu'on s'apaise en jouant de la guitare. Donc ce qui me plaît dans la bossa nova, c'est ce massage sonore qui fait du bien à tout le monde.
Alors qui fait du bien, mais la bossa nova, ça peut et c'est souvent assez mélancolique.
Oui, mais c'est là l'ambivalence de la mélancolie que dans d'autres pays on appelle de manière intraduisible en français saudade en brésilien, en portugais, qu'on appelle tasca en russe, qu'on appelle zenzurt en allemand. C'est une mélancolie qui est un peu lumineuse. C'est agréable d'aller gratter là, dans le passé, cette nostalgie. C'est agréable de pleurer tous ensemble sur le temps passé, etc. Et ça, j'aime beaucoup.
Alors, après avoir interrogé la mélomane, je vais interroger l'artiste. L'initiation à la musique commence quand, comment et avec quel instrument pour toi ?
Alors, moi, je... Je rêvais de faire du piano, mais ma mère m'a mis à la cornemuse, écoute. Donc, parce que dans mon village, il y avait une association de musique traditionnelle qui proposait des instruments comme ça, traditionnels français. Donc, on avait de la vielle à roue, de l'accordéon diatonique, de l'épinette, de la cornemuse. Et il s'avérait que le conservatoire, pour mes parents, c'était un horizon... qui n'était pas de ma classe sociale, enfin, c'était un truc de riche, quoi, pour le dire autrement, plus clairement même. Et finalement, voilà, je me suis retrouvée à la cornemuse pendant au moins 5 ans, dans cette association de musique traditionnelle, la Piposa, qui est une association en fait très reconnue de musique traditionnelle. Mais finalement, c'était un enseignement oral de la musique qui, j'en suis sûre, a beaucoup contribué à développer mon oreille, parce qu'on avait toujours, on avait une heure de cours où le prof nous montre, nous joue la mélodie, on la répète, et après on se retrouvait en ce qu'on appelait la musique d'ensemble. Tous les instruments venaient bosser la mélodie, donc c'était une fois par semaine, venaient la mélodie, bosser la mélodie qu'on venait de voir. Voilà, donc, et avec un refus de l'écrit, comme souvent dans les cultures traditionnelles, donc pas de partition, pas de solfège, rien du tout, quoi. Tout sur l'écrit, tout sur l'oral, pardon.
Et alors, l'envie de jouer tes propres morceaux arrive à la vingtaine. Comment une amoureuse du patrimoine comme toi aborde l'écriture et la composition de ses propres chansons ?
Ouais, c'est compliqué ça. Donc évidemment, après la cornemuse, il y a eu d'autres étapes, hein. J'ai piqué la guitare de mon frère. Mon frère qui, comme tous les adolescents, avait une guitare pour séduire les filles. Il a juste eu le nombre de mois suffisant pour séduire sa future femme. Et après, il ne l'utilisait plus, donc je lui ai prise. J'en ai joué. Je jouais tout ce que j'aimais, tout ce que j'entendais. Et c'est vrai qu'il y a eu une bascule à un moment. Donc je pensais vraiment pas que ça arriverait, mais dans la vingtaine, il y a un moment où moi qui n'ai jamais écrit, hein, j'écris pas des histoires, donc je suis pas ce genre d'autrice. Tu vois, il y a beaucoup de musiciens qui te disent, ah, depuis que je suis petit, j'écris dans des carnets, des textes, des poésies. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment par l'angle de la musique, de la composition, de l'ingurgitation du patrimoine, du jazz, de la variété, etc., que je suis entrée dans l'amour de la musique des auteurs. Et effectivement, c'est encore assez mystérieux pour moi. Mais je peux te dire, il y a quand même un événement clé. C'est qu'un jour, dans un bar à Paris, j'avais toujours ma guitare sur le dos et je traînais tout le temps dans les bars, voilà, avec ma guitare ou dans les parcs et tout. Et un jour, j'ai un mec qui m'attrape par la guitare et qui me dit qu'il écrit des textes. Et donc on devient très amis et il me propose des textes, et tout de suite sur ces textes j'entends de la musique, donc je commence à faire des chansons sur ces textes. Et au final, en faisant des musiques sur ces textes, je me suis mise naturellement à avoir envie de faire des textes sur mes musiques. Voilà.
C'est d'abord une histoire de rencontre, la musique, pour toi?
La rencontre avec des... Ouais, alors, la rencontre, pas comme, là, je viens de te décrire, pas exactement comme dans un bar, mais la rencontre avec d'autres artistes, découvrir d'autres musiciens, d'autres répertoires, la rencontre avec des univers artistiques forts, puissants, c'est ça qui inspire très fort, et pas seulement en termes de musique, mais la rencontre avec... Pour moi, les films, par exemple, le cinéma et tout, des univers, quoi, des fictions, m'inspirent des musiques, quoi, des textes.
Tu t'es joint les services de Fred Palem, hein, tout au long des 5 titres de ton album Mes Sœurs, notamment pour les arrangements. Il est, de mon point de vue, un des plus dignes héritiers de l'histoire française des chefs d'orchestre et arrangeurs de la musique populaire. Comment s'est fait ce choix de travailler avec Fred et quel a été son apport à l'album?
Je pense exactement comme toi.
Je crois qu'on est nombreux à penser ça d'ailleurs.
Alors, comme je t'ai dit, moi j'aime les univers cinématographiques. Pour moi, une chanson, ça raconte une histoire. C'est un objet. C'est une espèce de boîte à bijoux qui se suffit à elle-même. Et c'est un court-métrage. En 3-4 minutes, tu nous emmènes dans un petit univers, un bijou, comme je te dis, une bulle, quoi. Et pour moi, Fred, c'est un orfèvre de ce genre. C'est aussi un orfèvre des genres un peu plus longs, hein, avec son orchestre du Sacre du Tympan. Ouais, et pour moi, c'est l'héritier de... André Pop, c'est l'héritier de François de Roubaix, et il s'inscrit vraiment dans cette continuité. Et c'est juste que j'ai eu une amie chanteuse un jour qui me dit: mais tes chansons, c'est ton univers, c'est vraiment du Fred Palem. Il faut que tu fasses ton prochain album avec lui. Et moi je dis banco, c'est clair, j'adore ce mec et j'avais même pas pensé. J'aimais déjà le Sacre du Tympan, j'aimais déjà sa personnalité. Donc je l'ai contacté, il a écouté mon premier disque, il a trouvé ça super et il a vu ce qu'on pourrait faire ensemble, donc il a tout de suite accepté. Et
vous avez procédé comment tous les deux pour travailler sur l'album?
Ah là là, d'une manière que j'ai adorée, c'est-à-dire très rapidement. On s'est donc avec Fred et avec Jean-Marc Pelatan, donc on est une équipe, on est à 3. Jean-Marc s'occupe du son. Et Fred s'occupe des instruments et de l'arrangement. En fait, Fred, chez lui, il a un studio avec plein de jouets. Plein de jouets, c'est-à-dire les synthés. C'est une caverne d'Ali Baba, des synthés, des guitares vintage, des basses vintage, de tout ce dont peut rêver les collectionneurs comme moi et lui. Et donc, on entre en studio avec Fred sur un nombre de jours vraiment restreint, quoi. C'est-à-dire que cet album, on l'a fait, je pense, en seulement 5 jours, max, 4-5 jours. Une chanson par jour, quoi. Et on arrive le matin en se disant, aujourd'hui, c'est celle-là. Et voilà, on teste des trucs, on sort des instruments, des cartons. Et à la fin de la journée, il y a un résultat. Et durant toute cette journée, on a vraiment joué. C'est-à-dire que Fred, il est vraiment dans cette notion du jeu. Il a aussi par exemple, il collectionne les Action Man. Et donc, dans les pauses, quand il n'est pas en train de jouer, parce que Jean-Marc est en train de faire des trucs de son, régler des trucs, Fred, il est en train de réordonner ses Action Man, de leur remettre des élastiques quand il y a des bras qui sont cassés ou des trucs comme ça. C'est la même chose. On s'amuse, quoi, on joue.
Et on va écouter le premier extrait de ton mini-album Mes Sœurs, parce que je suis très pressé de faire découvrir ce titre à nos auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Elle est venue comment, cette chanson, Mes Sœurs?
Cette chanson, je l'avais depuis un petit moment dans mes maquettes, etc. Et, mais j'arrivais pas à trouver le texte. Voilà. Elle s'appelait autrement avant, etc. Ça faisait. Tu sais, j'ai des chansons qui traînent comme ça depuis parfois 10 ans, mais c'est pareil pour beaucoup de musiciens. Hein. On a plein de trucs dans les tiroirs et qui sont pas achevés. Et j'ai vécu un événement qui m'a permis d'en écrire le texte. Voilà. Tout à coup, parfois, il y a des occasions de la vie qui font que ça se débloque et des trucs que t'as pas convoqué, que t'as pas sollicité depuis 10 ans, 5 ans, ils peuvent être écrits en tout à coup terminés en 2 minutes littéralement quoi.
Et bon, écoutez mes sœurs, alors Stéphanie Inquiète. De Stéphanie Inquiète sur lequel on sent la patte de Fred Palem pour ouvrir la programmation musicale d'une émission en sa compagnie. Vous venez d'entendre à l'instant Mes Sœurs. Alors tu es originaire d'un petit village du nord de la France. Est-ce que la poésie de la grisaille d'où tu viens et le fait d'avoir grandi dans un village et non dans une grande ville a forcé ta détermination à devenir musicienne?
En fait, l'ennui est totalement porteur et moi je passais tout mon temps dans ma chambre, je jouais, comme je t'ai dit, de la cornemuse, mais du coup je jouais des flûtes, j'avais des flûtes irlandaises et tout. Et donc je passais mon temps dans ma chambre, j'avais un groupe que j'aimais, c'était The Corrs, les trois sœurs et leurs frères irlandaises, qui font de la grosse pop, à l'époque qui était assez connue, hein. je suis née au milieu des années 80. Et donc je jouais tous leurs morceaux. En fait, je passais mon temps dans ma chambre à répéter au violon toutes les parties de violon, à la flûte toutes les parties de flûte, à la guitare toutes les parties de guitare, à tout chanter. Donc voilà, je passais mon temps comme une forcenée à faire de la musique quoi. Donc par rapport à la grisaille du Nord, par rapport au fait que t'as pas envie de sortir et tout, oui, c'est génial.
Alors, tu parlais des Corses tout à l'heure, il y a aussi c'est de la grosse pop, mais quand même attaché aux traditions de leur pays. Il y a de nombreux voyages en Russie qui vont étoffer ta culture musicale, j'oserais même dire tes cultures musicales. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas?
Ah, là-bas, en Russie, j'ai... En fait, les hommes meurent très tôt. Hein. Il y a une espérance de vie déjà de 10 ans moindre qu'en France. Mais là-bas, les hommes meurent encore 10 ans avant les femmes. Parce que l'alcoolisme, quoi, voilà. Tu te bats avec ton pote parce que t'es alcoolisé, et ben, vous vous trucidez. Ou bien tu tombes dans l'eau et puis il fait moins 30. Et puis t'avais bu, donc t'es un... Bon, bref, t'es hydrocuté. L'alcool, le volant, nanana, l'alcool. Bref, donc les femmes sont là. Et donc il y a plein de vieilles femmes. Et il y a plein de vieilles femmes qui font des chœurs, des chorales. Elles se retrouvent puisqu'elles s'ennuient. Et elles chantent ensemble. Et elles chantent ensemble très fort. Et elles mettent leurs habits traditionnels. Et donc c'est vrai qu'en fait, on se retrouve encore dans le chant traditionnel finalement. Mais du coup, en Russie, où je suis allée beaucoup parce que j'ai fait des études de russe, j'ai appris la langue russe, j'étais passionnée par ce pays, tout ça. Je travaillais avec une chanteuse russe pendant de nombreuses années. Et ben j'ai été écouter beaucoup de ces femmes. Aussi, il faut savoir que la Russie est constituée de plein d'ethnies différentes. Hein. C'est une fédération où tu as 150 nationalités différentes. Et donc, il y a plein de cultures différentes. Notamment, moi, j'allais beaucoup en Oural, où il y a plein de peuples. Il y a des Bashkirs, des Oudmourtes, des Tadjiks. Il y a tout le monde. Et les Oudmourtes, c'est des Finno-Ougriens. Hein, donc, ça veut dire c'est comme les Finnois. Ils ont une langue qui n'a rien à voir avec le russe. Ils ont des chansons qui n'ont rien à voir, des instruments qui n'ont rien à voir, des costumes qui n'ont rien à voir. Donc, je me suis vraiment plongée là-dessus, quoi, là-dedans.
Et alors, qu'est-ce que tu as écouté pendant la période de gestation de mes sœurs et pendant son processus d'écriture et de composition?
Ben, pendant mes sœurs, j'ai énormément écouté un album de Jeannette avec André Pop, parce que comme je t'ai dit, je trouve que Fred, c'est le André Pop d'aujourd'hui. Jeannette est une des plus grandes chanteuses de pop également, tu vois, elle a cette voix totalement... Bah parfaite, pas blanche, mais c'est-à-dire il y a pas besoin de faire, il y a pas d'effet, la voix elle est toujours doublée, elle chantonne en fait même, et les mélodies sont tellement puissantes et sa présence est tellement juste que tout va bien. Et donc cet album, c'est Todo es nuevo, tout est nouveau, où il y a la canzone de mi papa, la chanson de mon papa par exemple. Donc j'écoutais ça, et c'est marrant, d'un autre côté j'écoutais aussi du Nico, sa période du Nico bien dark, bien allemand, bien berlinois, j'ai plus le nom de l'album en tête, mais ça m'a bien nourri, quoi, pendant l'enregistrement.
Avec Jeannette et Nico, on est dans la mélancolie aussi là.
Bah ouais, je crois que je suis profondément mélancolique. Hein.
Alors, tu me diras si ma question est claire ou pas. De toutes les voix qui sont en chacune et chacun de nous, laquelle tu as mise au service de tes chansons?
Mais ta question est hyper claire, parce que faire des chansons, être une chanteuse de variété, c'est trouver la bonne voix, la voix. La voix, quelle sera la chanteuse, quelle facette ça va être. Et tout est dans la voix, c'est-à-dire c'est des choix cruciaux. Et en fait, c'est bon, même pour ça que je fais appel à Fred, parce que je me disais, lui, il va m'aider à trouver la voix qui correspond au répertoire que je veux mettre en avant. Et alors que moi, j'ai même une voix plutôt mezzo, une voix assez puissante, et j'ai un timbre riche, plutôt opératique. Je peux chanter vraiment voilà, puissamment. Là où ça sert mes chansons, c'est quand j'en fais le moins, en réalité. Donc quand je suis plutôt dans presque le parler chanté, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai fait appel à Fred, pour sa direction artistique.
Et la voix qu'on va écouter pour poursuivre à la programmation musicale pour laquelle je t'ai confié les clés, c'est celle d'Isabelle Adjani. Elle tient une place importante pour toi, l'actrice française?
Cet album est mon album préféré de tout temps, parce que évidemment les compositions et les paroles de Gainsbourg, mais l'interprétation d'Adjani est transcendantale et raëlienne. C'est-à-dire que chaque chanson nous transporte dans un univers tellement complexe. C'est une femme, toutes les facettes de la folie, pas le mot hystérie, mais il y a vraiment toutes les facettes de l'angoisse, de l'inquiétude, de la passion, du désir. Elle sait, c'est un instrument formidable que Gainsbourg a su utiliser, Adjani. Donc dans sa voix, on entend tout, quoi. C'est toujours surprenant. Chacune des inflexions de sa voix, chacune des voyelles, sa manière de prononcer, chaque mot est parlante. Voilà.
Et tu as choisi le morceau d'Un taxiphone. Ouais. Tu nous en dirais quelques mots?
C'est une chanson que je trouve fascinante parce que on est dans l'abandon, dans l'abandonite même, hein. Elle est en train d'attendre, il y a personne qui lui répond au bout du fil, peut-être son amant veut plus la voir ou on sait pas, et donc il y a ces allô, elle prononce le mot allô pendant une durée, tu vois, il y a des mesures en plus, elle fait allô, 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 et ça continue, la chanson devient arythmique à cause de la folie du personnage principal qui est dépendant affectif, quoi. Donc je trouve que c'est une interprétation magistrale de la question de la dépendance, du problème de la gestion de l'absence et tout.